Bonjour à tous à la maison. On est vraiment content que vous soyez là ce matin. Comme vous savez, aujourd'hui, on commence notre campagne de 21 jours de prière, de jeûne et prière. Et j'aimerais dire que à chaque année, quand on a le 21 jours, quand on a notre 21 jours de jeûne et prière, c'est un des meilleurs moments dans la vie de l'Église. À chaque année, on a l'occasion d'entendre les témoignages de ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie des gens, dans les familles, dans l'entourage des gens qui s'engagent dans Libération 21. Qu'est-ce que c'est Libération 21? C'est l'Église qui, ensemble, s'engage pendant 3 semaines, pendant 21 jours, à prier pour que Dieu puisse faire... Et à chaque année, on a des beaux témoignages de ce que Dieu fait. À chaque année, c'est encore dernièrement, j'ai entendu comment c'était un des temps préférés de certaines personnes dans la vie de l'Église. Et alors qu'on est dans des temps incertains, qu'on ne sait pas trop c'est quand la prochaine fois qu'on va se rencontrer ensemble en grande assemblée, alors qu'on ne sait pas trop ce qui se passe même en ce moment dans le monde, j'aimerais nous proposer que Libération 21 va être encore une réussite cette année. Parce que c'est ce temps où est-ce qu'on veut ensemble se prosterner devant Dieu et ce temps ensemble où on veut voir Dieu à l'œuvre. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps, peu importe où nous sommes, peu importe quel genre de rencontre on va avoir. C'est certain que Libération 21 va être différent que toutes les autres Libérations 21 qu'on a vécues, mais qu'on puisse s'engager ensemble à prier notre grand Dieu, et à aller devant lui et lui demander de répondre à nos prières. Et on appelle ça un temps de jeûne et prière. Et qu'est-ce qu'on veut dire par jeûne? On vous encourage simplement à considérer quelque chose que vous puissiez mettre de côté pour un temps. Parfois, il y en a qui vont jeûner de nourriture. Ils vont mettre la nourriture de côté pour un temps pour pouvoir prier. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre qu'on veut prendre et qu'on veut mettre de côté pour un certain temps, que ça peut être pendant une heure dans la journée, que ça peut être pendant la durée de Libération 21, qu'on peut juste mettre de côté et prendre du temps dans la prière et chercher la face de Dieu. C'est certainement un bon temps pour prier, un bon temps pour prier pour nos gouvernements et toutes les décisions difficiles et qui sont prises pour la première fois. Un temps pour prier pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, nos médecins, nos infirmières, tout le réseau de la santé qui va être encombré peut-être dans les prochaines semaines. On veut prier que Dieu utilise les événements présents pour sa gloire. Que Dieu puisse, qu'on puisse voir le Dieu qui sauve à l'œuvre. On veut certainement prier pour les autres. C'est un bon temps pour prier, parce qu'on vit présentement plus que jamais dans un climat d'inquiétude. On l'a vu cette semaine, quand que les annonces de mesures préventives ont été prises, comment est-ce que les gens ne savaient pas trop comment réagir. Les gens se sont rués vers les supermarchés, ont essayé de vider les supermarchés de toutes les blagues qu'on voit maintenant sur Facebook à cause de tous les rouleaux de papier de toilette qui ont été achetés cette semaine. On voit que c'est un climat d'inquiétude. C'est certainement un temps d'inquiétude qui suscite beaucoup de questions, n'est-ce pas? Sur notre sécurité, la sécurité des gens qu'on aime. C'est aussi une bonne période pour nous poser la question, où est-ce que je mets mon espoir? Où est mon espérance dans ces temps incertains? Cette semaine, alors qu'on suivait les nouvelles, j'étais sur Internet, je regardais toutes les nouvelles sur les médias sociaux. Et pour m'emmener, ma femme, qui me connaît bien, a vu mon inquiétude. Puis elle m'a regardé, puis elle a juste dit, « Arrête de t'inquiéter, on est au contrôle de rien. » Il y en a juste un qui est au contrôle. Wow! Juste cette petite parole de sagesse de ma femme qui m'a sorti de mes pensées, qui m'a sorti de juste vouloir essayer de tout comprendre. Je dis, « C'est vrai, je ne suis pas au contrôle de rien. » Ça fait du bien de l'entendre et de se le rappeler. Mais ça fait surtout du bien de l'entendre et de se le rappeler quand on sait qui est au contrôle et où on peut mettre notre espoir. Puis même quand on sait ça, même quand on dit « Ah oui, moi je crois en Dieu, je mets mon espoir en Dieu », mais il me semble qu'il y a des temps, il y a des circonstances, des épreuves dans nos vies où c'est pas mal difficile de goûter à la bonté puis à la présence puis de goûter à la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des moments où le brouillard de nos vies est tellement épais que c'est difficile de se tourner vers Dieu, de voir Dieu, puis on se pose cette question, où est mon espérance? En quoi est-ce que j'ai mis mon espoir? Puis pendant ce 21 jours de prière et de jeûne, on veut s'arrêter un instant dans la folie actuelle du monde dans lequel on vit. Dans la folie, peut-être, des attentes qu'on a de la difficulté à rencontrer. Dans la folie des relations qu'on a du mal à gérer. Des déceptions, de nos échecs, de nos manquements. On veut s'arrêter et regarder Dieu agir dans nos vies. On veut s'arrêter et regarder Dieu agir dans nos vies. Le psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Et c'est vers ce Dieu que nous voulons nous tourner ensemble dans la prière. Premièrement, pour lui dire, Dieu, restaure notre confiance en toi. Rappelle-nous notre espérance et agis puissamment dans cette période. On veut s'arrêter et se rappeler que notre Dieu est le Dieu de l'impossible qui rend l'impossible possible. Pendant les 3 prochaines semaines, on va regarder ensemble 3 histoires de l'Ancien Testament où tout semblait impossible, tout semblait perdu. Mais le Dieu de l'impossible agit de manière extraordinaire dans chacune de ses histoires pour son peuple. Et j'aimerais ça, avant d'aller plus loin, qu'on peut juste se courber ensemble et aller dans un moment de prière. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses bénir ce temps spécial ensemble ce matin. Que tu puisses bénir les familles dans leur foyer, avec leurs enfants, les gens qui sont à l'écoute. Je te prie, Seigneur, que partout dans le monde aujourd'hui où les gens se tournent vers ta parole, où les gens se tournent vers l'Internet pour écouter les messages de la parole, qu'ils puissent avoir cette vague d'encouragement, cette vague d'espoir, cette vague de confiance, de peu importe, même si les circonstances sont incertaines, même si on ne sait pas ce qui va arriver, ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre, Seigneur, qu'on puisse être encouragé par ton évangile, par ta parole ce matin. Et je te prie que tu puisses vraiment, dans ce temps où est-ce que l'Église elle est dispersée un petit peu plus, que ce sentiment d'appartenance à l'Église, que cette Église, le sentier, puisse rester et demeurer une Église unie, une Église forte pendant cette période. Je te prie ces choses en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous allons regarder ensemble ce matin, on va voir l'histoire d'Esther. Esther. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Esther, si vous avez déjà lu le livre d'Esther, mais le livre d'Esther est un livre très spécial. Parce que c'est dans ce livre-là, qui est dans la Bible parle de Dieu, la Bible parle de comment Dieu s'est révélé aux hommes. Dans ce livre-là, il n'est aucunement mention du nom de Dieu. On n'y voit jamais le nom de Dieu apparaître. En fait, dans un sens, dès le début de l'histoire d'Esther, tout porte à croire que Dieu n'est pas présent. Le peuple est en exil. Le peuple a perdu une guerre, le peuple a été amené en exil dans un autre pays. Et à ce moment-là, quand tu es amené en exil, alors qu'est-ce qui se passe? Bien, ton peuple a perdu, ton Dieu a perdu, et c'est très incertain. Et certainement que pour le peuple juif qui est en exil, on se pose cette question. Où est Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que Dieu a perdu? Est-ce que les dieux du peuple qui a gagné sont plus forts que nos dieux? Voici les questions que le peuple se pose à ce moment-là. Le fait d'être en exil, c'est cette question-là de se demander, est-ce que Dieu est avec nous? Et on voit dès le début de l'histoire d'Esther, on voit le roi Ahasuérus, le roi des Perses, qui lance un gros banquet et qui veut démontrer à tout le monde la grandeur puis la beauté de son royaume. Et puis, c'est comme un peu, regardez-moi, regardez comment on est grand, regardez, je suis le plus grand, je suis le plus puissant, tout ce que je fais a réussi, on est le peuple des peuples, il n'y a rien de mieux que nous. Alors, une raison de plus pour les Juifs qui sont en exil de se dire, bien, ça a l'air d'être vrai, ça a l'air d'être ça qui se passe, puis Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec nous. Mais le livre d'Esther est écrit pour nous rappeler la délivrance incroyable de Dieu dans un des moments les plus désespérés de l'histoire juive. Le livre d'Esther est écrit pour être lu lors de la fête de Pourim, qui une fête qui raconte la délivrance de Dieu à cette époque. Et à chaque fois que les gens fêtent cette fête, ils se rappellent que Dieu a délivré le peuple alors que le peuple était en fait condamné à mort, et on va voir pourquoi tantôt. Alors que tout porte à croire que Dieu est absent, alors que tout porte à croire que le peuple juif en exil est au moment le plus creux et le plus désespéré de son histoire, Dieu agit de façon glorieuse. Et ça, malgré la force apparente de l'ennemi, sans égard à l'obéissance ou à la désobéissance du peuple. Parce que dans cette histoire, on voit des indices où ce que le peuple juif commence à être assimilé et n'agit pas conformément à toutes les règles et à toute la moralité que Dieu avait prescrit. Mais sans égard à l'obéissance et à la désobéissance du peuple, malgré le désespoir du peuple, malgré l'évidence et la certitude que le peuple va être détruit, sans mentionner le nom de Dieu, l'histoire est remplie d'empreintes de Dieu. On y voit dans cette histoire plein de des hasards divins qui nous montrent la souveraineté de Dieu. Comment est-ce que le Dieu de l'impossible agit dans cette situation et qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans nos vies aujourd'hui? C'est ça qu'on veut voir. Et donc, si on revient encore au début de l'histoire, on voit ce roi qui organise ce banquet, qui veut montrer aux gens comment il est grand, comment il est puissant, comment il est fort. Et après une longue période de banquet, de fête, ce que le roi demande, c'est de faire venir la reine. Il faut comprendre qu'à cette époque, un roi pouvait avoir plusieurs femmes, plusieurs concubines, et une de ces femmes-là, du roi Ahasuérus, était nommée reine. Et cette reine, Vasti, était la reine à cette époque, et le roi demande qu'on fasse venir la reine parce qu'il voulait montrer au peuple comment il était bon, comment il était grand, comment il était fort et comment il avait la plus belle femme du royaume. Et la reine refuse de venir. Elle ne voulait pas se présenter devant le roi. Et bien qu'aujourd'hui, c'est tout à fait acceptable et on a le droit de dire non, à cette époque-là, le roi était celui qui décidait ce qui devait se passer pour tout le monde. Et le fait de refuser d'aller dans la présence du roi, ça l'a mis le roi en colère. Et dans sa colère, le roi va destituer la reine de son titre de reine. Et après quelques temps, qu'est-ce que le roi veut? Mais là, il dit, il n'y a pas de reine, j'aimerais savoir une reine. Et alors, on fait venir toutes les jeunes filles devant le roi, toutes les jeunes filles du peuple. Et il faut se rappeler que le peuple est grand, le peuple est composé de plusieurs nations. Et là, on fait venir plusieurs jeunes filles, et il y en a une qui attire l'attention du roi, et c'est Esther, une femme juive, qui, en se présentant devant le roi, on ne sait pas, elle ne va pas dévoiler qu'elle est juive, mais c'est une femme juive, et le roi la voit, et tout de suite il tombe en amour avec elle, il dit, c'est elle qui va être ma reine. Donc Esther devient la reine. Et pas longtemps après, Esther avait un oncle qui s'appelle Mardoché, et Mardoché va entendre un complot pour faire tuer le roi. Et tout de suite, il va voir Esther, qui lui raconte ce qu'il a entendu. Esther va aller voir le roi, et le roi va vérifier les informations, et effectivement, on voulait tuer le roi. Mardoché a sauvé le roi. Donc Mardoché, c'est un homme qui est important dans cette histoire. On va en parler un petit peu plus tard, mais je veux juste vous raconter comment que ça se passe au début de l'histoire. Et un autre personnage qui se trouve dans cette histoire, c'est Aman. Et Aman est un homme important aux yeux du roi pour le royaume. C'est quelqu'un qui a un rôle important, qui est d'une importance dans le royaume. Il peut prendre plusieurs décisions. Seulement le roi est au-dessus de lui en importance. Alors le roi a décrété que chaque serviteur du roi, chaque personne, quand Aman se présente devant eux, les gens doivent plier le genou. Mais quand que ça se passe, Mardoché est là. Mardoché, un homme juif, ne se plie pas le genou. Alors les gens lui demandent, mais pourquoi est-ce que tu ne plies pas le genou? Il dit, bien, je suis juif, je ne peux pas plier le genou. Et comme j'ai dit tantôt, on ne mentionne pas le nom de Dieu dans cette histoire, mais ici Mardoché est en train de dire, je ne peux pas me prosterner devant personne d'autre que devant Dieu. Alors voilà ce que Mardoché est en train de faire. Il est juste en train d'obéir à son Dieu. Il ne manque pas de respect envers Aman, il ne veut pas manquer de respect envers l'ordre du roi, mais il ne peut pas respecter ce décret-là parce que son roi, Dieu, lui dit de ne pas faire ça. Alors, Aman, quand il apprend ça, il se met en colère. Il se met tellement en colère qu'il demande, qu'il va demander au roi d'exterminer Mardoché et tous les Juifs. Et à cette époque-là, le roi accepte la demande de Mardoché et signe un décret, une loi qui va permettre de tuer tous les Juifs. Et quand le roi décrète une loi comme ça, elle est irréversible. En fait, on va se rendre compte que même le roi, une fois qu'il a fait un décret, même le roi ne peut pas annuler son décret. Ça devient une loi, il faut la mettre en œuvre. Et c'est là qu'on arrive à partir de Esther, dans Esther 4, on va mettre le texte ce matin à l'écran pour que ce soit plus simple pour vous. À partir de Esther 4, pardon, on peut lire les trois premiers versets. « Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. » Qui avait valeur de loi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui allait changer ça. Le peuple était condamné à mort. Et c'est devant cette annonce-là que Mardoché se met à être dans l'angoisse, dans l'amertume, dans le deuil, parce que son peuple va être condamné, parce que son peuple va mourir, parce que lui et son peuple vont mourir. Il y a cette certitude dans la loi que le roi vient d'émettre. Alors on comprend le désespoir de Mardoché et de tout le peuple. Sont condamnés à mort. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça pouvait aller plus pire pour eux autres? Est-ce que ça pouvait aller plus mal pour eux? Ça ne pouvait pas être pire. On ne peut pas penser à une situation pire que celle-là pour le peuple à l'époque. Quand est-ce qu'on s'est dit dans nos vies, dans nos propres vies, là, je ne pense pas que ça peut aller mieux. Je ne pense pas que ça peut aller plus mal que ça, en fait. Je pense que là, ça va vraiment mal. Le découragement, le désespoir, c'est quand c'est quelque chose de gros. Le désespoir, c'est gros. Parce que quand on regarde notre vie et que tout va mal, quand on ne sait pas à quoi s'accrocher, c'est une tragédie. Les êtres humains ont envie d'espoir. On a besoin d'espoir pour vivre. On a besoin de s'accrocher à quelque chose pour vivre. Pour vivre. Sans espoir, on n'a rien à quoi s'accrocher. Sans espoir, on n'a pas de direction. Puis bien souvent, nos circonstances peuvent nous amener au découragement, au désespoir. Surtout quand c'est quelque chose dans lequel on a mis notre espoir qui nous pète d'en face. Quand c'est quelque chose dans lequel on a mis notre espoir qui nous abandonne. Quand on n'a pas d'espoir, on n'a pas rien à quoi s'accrocher. Si nos circonstances peuvent nous amener au découragement et au désespoir, est-ce que notre espoir dépend de nos circonstances? Est-ce que c'est possible d'avoir de l'espoir dans les pires circonstances de nos vies? Allons voir la suite de l'histoire, qu'on peut lire à partir du verset 11. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, pardon, j'ai pas le bon passage, on va juste reculer un petit peu. C'est pas les bons versets. C'est les bons versets, mais ce n'est pas les bons numéros, je pense. Ce ne sera pas très long. Je l'ai ici. Je l'ai.
Ah oui, c'est ça, désolé, c'est moi qui ai fait l'erreur. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. Alors ça, c'est Esther qui parle, qui envoie un message à Mardochée parce que Mardochée demande à Esther d'aller plaider en faveur du peuple auprès du roi. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Donc, ce qu'Esther est en train de dire en ce moment, c'est qu'elle est en train de rappeler à Mardochée comment est-ce que le roi peut être sévère, puis comment est-ce que les lois du roi sont sévères. Et on se rappelle ce qui est arrivé à la reine Vashti au début de l'histoire. On se rappelle que le roi, quand il fait un décret, il va le mettre en œuvre. Et là, ce qu'Esther est en train de dire, si je me présente devant le roi alors que le roi n'a pas demandé ma présence, alors il est très possible que je vais mourir. Et puis là, en plus, c'est pas comme si je voyais le roi si souvent que ça ces temps-ci. En ce moment, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu le roi, alors peut-être que le roi ne veut juste pas me voir. Alors, elle est en train de dire qu'elle a peur. Et là, au verset 12, on rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. » En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Certainement, une situation désespérée. Certainement, un grand trouble, une grande tragédie pour le peuple, et même ici pour Esther. Esther qui dit avoir peur et finalement qui dit, « Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais aller intercéder, je vais prendre une chance. » Mais il y a 3 choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin quand on regarde cette histoire. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que le Dieu de l'impossible agit dans ton désespoir. Le Dieu de l'impossible agit dans ton désespoir. Il y a trois vérités que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Tout d'abord, le Dieu de l'impossible est un réconfort dans les épreuves. On se pose cette question, comme on a dit au début, est-ce que Dieu agit dans ma vie? Le Dieu de providence pourvoit à nos besoins, c'est dans sa nature. Dieu agit dans nos vies, c'est dans sa nature. Dieu est un Dieu présent. Dieu, dans sa parole, nous montre à maintes et maintes reprises comment c'est un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous individuellement et qui veut agir dans nos vies. Ça ne veut pas dire que nos circonstances sont toujours belles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'inquiétude. Dieu est un Dieu qui agit et Mardochée le croyait. Mais Dieu agit. Pas toujours comme on voudrait, n'est-ce pas? Je me souviendrai toujours le jour où est-ce que ma fille est née et qu'il y a eu quelques petites complications à sa naissance. Rien de grave aujourd'hui, Dieu merci. Mais je me rappelle encore ce jour où est-ce que je suis dans les soins intensifs et je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce que ça va être quoi l'avenir. Je ne sais pas si c'est grave. Si c'est grave, comment longtemps qu'on va avoir notre petite fille avec nous. Je ne sais pas comment va ma femme parce qu'elle est dans une autre pièce. Je ne sais pas. T'sais, souvent, on peut déterminer nos circonstances comme on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est très angoissant. Et je me souviendrai toujours le jour où est-ce qu'on l'a transféré de l'hôpital ici à Gatineau pour la porter à Ottawa, où est-ce que les ambulanciers sont arrivés. Et puis, c'était très impressionnant de voir le chariot pour un petit bébé très, très, très petit. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là où est-ce que ma fille, elle a été emportée dans ce petit lit-là. J'étais terrorisé. J'en revenais pas. J'étais comme... J'avais ces émotions en dedans de moi que j'ai jamais vécues depuis. C'est comme, tu perds le contrôle puis tu ne peux rien faire. Et je me souviendrai toujours où est-ce que je n'ai pas eu aucune confirmation à ce moment-là que ma fille allait être guérie et qu'elle allait être correcte. Mais je me souviendrai toujours de ce moment-là où Dieu il m'a dit, « Dominique, je prends soin de ta fille. » J'ai eu cette conviction dans mon cœur. C'était comme, j'ai levé mes yeux vers le plafond de l'hôpital. Et puis, je me souviens où est-ce que Dieu m'a juste réconforté et m'a dit, « Je prends soin de ta fille, je prends soin de vous. » Et c'était la parole que j'avais besoin dans mon cœur pour pouvoir juste dire, « OK, Seigneur, prends, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. » Dieu n'agit pas toujours comme on le veut ou comme on s'attend, mais Dieu est un Dieu qui agit dans notre désespoir. Dieu est un Dieu qui veut agir dans ton désespoir. S'il y a une chose que le livre d'Esther veut nous montrer, c'est l'action de Dieu dans la vie du peuple. Toutes les circonstances pour que le peuple soit délivré. C'est un miracle, c'est impossible. On pense à une femme juive qui est préférée parmi 127 autres provinces, plein d'autres peuples. C'est une femme juive qui a été choisie pour être reine. Juste ça, si ça avait été la femme d'un autre peuple, elle n'aurait pas cru bon de risquer sa vie pour pouvoir sauver un autre peuple. Mardochée qui entend le complot de mort pour le roi, c'est vraiment important parce que plus tard, le roi, une nuit comme ça, après ce décret de mort pour les Juifs, le roi va se souvenir, le roi va se rappeler, il ne sera pas capable de dormir, alors il va lire le journal de ce qui s'est passé. Et puis là, le roi, il va se souvenir, il va juste se rappeler comme qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que Mardochée avait fait. Et le roi va aller voir Aman, celui qui veut faire tuer Mardochée, et puis il va demander à Aman comment est-ce qu'on traite un homme à qui on veut reconnaître une grande chose qu'il a faite. Qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître la valeur d'un homme? Aman était certain que le roi parlait de lui. Alors là, il dit, il faut lui mettre un habit que le roi a déjà porté. Il va lui dire, il faut le porter sur un cheval et dire à tout le peuple, voici comment on traite un homme que le roi veut honorer. Et le roi dit, c'est une bonne idée, Aman, tu vas faire exactement ce que tu viens de dire avec Mardochée. Celui qui voulait tuer Mardochée. Quelle ironie de la part de Dieu. Et à la fin, on voit cette histoire où est-ce que Esther, justement, va aller voir le roi. Le roi va laisser Esther lui parler, il va entendre Esther et il va trouver une façon où ce que le peuple va pouvoir être délivré et le peuple va être délivré. Et jusqu'à ce jour, le peuple va célébrer la délivrance de la part de Dieu. Tous des petits événements. Alors, dans un livre où est-ce qu'on ne voit pas le nom de Dieu, alors, dans un livre où est-ce qu'on s'attend que la présence de Dieu, elle est absente, Dieu est en train de démontrer qu'il est présent, il est en train d'agir. Donc, un réconfort dans les épreuves et le Dieu de l'impossible est notre motivation dans l'épreuve. Leur espérance n'était pas forte à ce moment-là, mais Mardochée était convaincu que Dieu allait les sauver. J'aimerais répéter les paroles qu'il dit à Esther. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part de la part de l'Éternel. Ben, pas de la part de l'Éternel parce qu'il ne dit pas le nom de Dieu. Mais la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. La délivrance va surgir d'autre part pour les Juifs. Il est en train de dire, c'est le même homme qui court partout, qui est tourmenté, qui est plein d'angoisse, qui est plein d'amertume, qui est en deuil, qui a peur, qui est craintif. Ce même homme-là qui vit ses peurs, et c'est normal, c'est humain de vivre ses peurs. Il ne faut pas se culpabiliser de dire, ah, ben, parce que j'ai peur, je ne fais pas confiance en Dieu. Parce que je suis inquiet, je ne fais pas confiance en Dieu. Mais cet même homme-là qui avait peur, qui était inquiet, avait cette assurance que Dieu allait le sauver. Que Dieu allait être fidèle parce que Dieu est un Dieu qui sauve. Malgré le désespoir. Dieu est un Dieu qui délivre. Un Dieu qui transforme. L'histoire d'Esther nous rappelle, nous montre qu'on peut se soumettre à Dieu, qu'on peut obéir à sa parole, qu'on peut lui faire confiance parce qu'il est le Dieu qui sauve. Et c'est la même chose que Jésus a fait avec nous. Jésus nous sauve de la mort, de nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu alors qu'on était ses ennemis. Dieu est venu parmi nous. Dieu est venu parmi nous pour nous sauver, pour nous délivrer, parce que Dieu est un Dieu qui sauve. Jésus nous a sauvés de notre plus grand désespoir. Le plus grand désespoir, celui d'être ennemi de Dieu, celui de ne pas connaître Dieu. Celui d'être rebelle à Dieu. Puis si on peut mettre notre joie en lui aujourd'hui, malgré les circonstances, et notre désespoir, c'est parce qu'il nous a sauvés de notre plus grand désespoir. Si je peux être motivé à lui obéir, c'est parce qu'il m'a réconcilié avec lui. Romains 1 nous dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois que Jésus est la puissance dans ta vie aujourd'hui qui te rend capable d'aimer, qui te rend capable d'avoir confiance en lui, qui te rend capable de lui remettre tes soucis? Jésus, c'est la puissance de Dieu en toi. Jésus veut avoir cette relation avec toi qui te rend capable de lui faire confiance. Est-ce que tu crois que Jésus, c'est la puissance de Dieu qui est au contrôle de la situation? C'est bon de se poser cette question-là dans les circonstances actuelles. On se pose ces questions-là. Et Dieu nous montre constamment qu'il est au contrôle. Il utilise ses enfants, son Église, pour agir en nous envers les autres. Et ma prière pour notre Église dans ces temps incertains, dans ces temps d'inquiétude, c'est que Dieu nous donne d'être une lumière les uns envers les autres, d'être une lumière pour le monde, que nous puissions partager l'espoir qu'on a en Jésus, qu'on puisse aider notre prochain quand c'est possible, qu'on puisse être capable de démontrer de la compassion, de la confiance en celui qui est au contrôle. Cette semaine, quand je suis allé à l'épicerie, parce que je suis très honnête avec vous, quand j'ai vu tout le monde vider les épiceries, je me demandais s'il allait rester un souper pour nous qu'on avait besoin d'aller acheter pour le lendemain. Je disais à ma femme, je pense que je vais aller faire l'épicerie à soir. Puis je vais à l'épicerie, puis là, je sors dans le stationnement, puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire si l'affaire que j'ai de besoin, c'est la dernière affaire qui reste sur les étagères? C'est juste cette petite pensée-là pour dire comme est-ce que je vais comme pousser tout le monde, puis là, je vais comme aller chercher mon affaire, je vais me sauver, puis là, je m'en fous des autres. Puis c'est-tu le temps de paniquer puis de me foutre de mon prochain? Puis c'est drôle parce que c'est une petite situation comme ça, parce que tu te dis, OK, comment est-ce que je réagis si finalement, il n'y avait personne dans l'épicerie? J'étais allé à 9h le soir, j'ai pu prendre mon temps. Mais quand même, je me suis posé cette question-là. Et c'est ma prière qu'on puisse ensemble garder l'identité que Dieu nous a donnée pour pouvoir aimer notre prochain, pouvoir avoir de la compassion pour les autres et pouvoir partager l'espoir que Dieu nous donne. Prions que Dieu utilise les circonstances de nos vies pour amener d'autres à le connaître, pour encourager la foi de nos frères et sœurs. Prions pour qu'on ne succombe pas à la tentation de penser juste à nous dans nos moments difficiles, mais de prendre ces occasions pour aimer notre prochain et témoigner de l'espoir qu'on a reçu. Parce que le Dieu de l'impossible est notre espoir et il nous offre une assurance joyeuse dans les moments difficiles. Voici la vérité prédominante du livre d'Esther. Malgré l'exil, malgré l'apparence d'absence de Dieu et malgré les compromis moraux du peuple d'Israël, Dieu n'a pas abandonné sa promesse de sauver son peuple. Notre espoir dans l'œuvre de Dieu nous donne une assurance joyeuse malgré les circonstances. Dieu sait où on est. Dieu sait où on s'en va. Aujourd'hui, on peut juste répondre « on ne sait pas » à beaucoup de questions, mais Dieu le sait. Dieu n'est pas surpris par le coronavirus. Dieu n'est pas surpris par les circonstances de ta vie. Et on ne peut pas changer nos circonstances. Ça, ce sont les circonstances qui nous sont présentées. On ne peut rien faire pour les changer. Mais notre perspective peut être changée. Je ne sais pas si vous avez vu le film Unbroken qui raconte l'histoire de Louis Zamperini. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un athlète olympique qui est allé à la guerre. Il y a un film qui démontre comment il a été dans le camp de concentration au Japon, je crois. Mais il y a un deuxième film qui montre son retour après la guerre. Et il faut comprendre que pendant la guerre, il a passé un moment où est-ce qu'il était sur un bateau dans l'océan, il ne savait pas s'il allait être récupéré, il allait peut-être mourir. Et Il a vécu beaucoup de souffrances dans le camp de concentration. Il revient de la guerre, un homme différent, un homme qui ne sait plus trop qui il est. Il voulait refaire les Olympiques, mais il s'est blessé. Alors là, il a perdu tout sens d'espoir et d'identité. Il n'a aucune idée qu'est-ce qui va advenir de lui. Et là, il se met à boire de l'alcool, il se met à être méchant avec les gens autour de lui. Il est dans le désespoir total, il n'a plus rien à quoi s'accrocher. Et puis un jour, sa femme l'amène voir une conférence, et ça, c'est une histoire vécue, de Billy Graham pour entendre l'Évangile. Et pendant ce temps, pendant cette conférence, il se rappelle du moment qu'il était dans le bateau et il attendait d'être secouru et il avait demandé à Dieu d'être avec lui. Et alors que depuis ce temps, il avait toujours interprété les signes comme quoi Dieu l'avait abandonné, comme quoi Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'a pas changé sa circonstance, mais ce que Dieu lui a rappelé, c'est que quand il a fait cette prière-là, il a senti la présence de Dieu. Il a réalisé que tout ce temps-là, Dieu était avec lui. Dieu le supportait. Et ça l'a complètement changé sa vie, complètement changé sa perspective. On a vu un homme qui a arrêté de boire à ce moment-là, qui a changé sa colère envers sa femme, qui est devenu un homme plus doux. Il a reconnu que Dieu était avec lui dans le bateau et ça l'a tout changé. Il a donné sa vie à Jésus. On a une espérance joyeuse qui peut changer notre perspective dans les circonstances difficiles. Puis toutes les Écritures nous pointent vers ce Dieu, vers ce Jésus qui veut transformer nos vies. Toutes les Écritures pointent vers Jésus qui veut avoir une interaction avec nous, pour changer notre désespoir en espoir, pour nous donner une raison de vie qui est durable, qui ne va jamais être brisée, qui va durer même au-delà de notre vie terrestre. Toutes les Écritures pointent vers ce Jésus. Et l'histoire d'Esther pointe vers un meilleur et véritable Esther qui n'a pas juste risqué de perdre son palais terrestre, mais qui a perdu son palais céleste. Il n'a pas juste risqué sa vie, mais il a donné sa vie pour sauver son peuple. Ce Dieu qui nous sauve nous donne un réconfort dans les épreuves. Ce Dieu qui nous sauve nous donne une motivation pour obéir et une assurance joyeuse dans l'espérance. Alors, prions les uns pour les autres. Soyons cette lumière, cette espérance, ce témoignage de l'espoir de Dieu autour de nous. Soyons ce témoignage de la grâce de Dieu autour de nous. Partageons cet espoir. Pensons les uns aux autres, prions les uns pour les autres. Contactons-nous pendant ce temps où est-ce qu'on va moins se voir pour prier ensemble. Supportons-nous. S'il y en a qui sont plus stressés en ce moment, qui sont plus dans le désespoir, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter quelqu'un de l'Église que vous connaissez. On veut être présent dans ce temps incertain d'inquiétude. Mais tout d'abord, croyons que le Dieu de l'impossible va faire des miracles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que le Dieu de l'impossible va transformer des vies, que le Dieu de l'impossible va nous supporter. Prions ensemble que le Dieu de l'impossible puisse agir et regardons-le faire des grandes choses et mettons notre joie et notre espérance dans son œuvre. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton action dans nos vies, même quand ça ne paraît pas toujours. Seigneur Jésus, merci pour ta délivrance. Merci parce que il y a plusieurs centaines d'années, milliers d'années, tu as sauvé ce peuple et aujourd'hui, tu continues à être le même Dieu qui sauve. Le même Dieu qui aime, le même Dieu qui veut nous connaître. Le même Dieu qui veut nous rassurer. Tu as quitté ton palais céleste pour qu'un jour on puisse te joindre et passer l'éternité avec toi. Et la mort ne peut pas nous séparer de toi. La maladie ne peut pas nous séparer de toi. Les pertes ne peuvent pas nous séparer de toi. Je ne le sais pas. Les « je ne le sais pas » de nos vies ne peuvent pas nous séparer de toi. Et on te prie, Seigneur, le Dieu de l'impossible, qu'on puisse tous dire en assemblée, ensemble, que le Dieu de l'impossible, c'est lui qui transforme l'impossible et qui le rend possible. Amen.